Manger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Europe 1, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie, accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Johanna.
Bonjour, bonjour Johanna.
Alors cette heure, c'est la vôtre. On va parler pendant une heure de ces femmes qui décident de faire un bébé toute seule. Pardon pour cette expression toute faite, sans doute assez maladroite. Aujourd'hui, impossible de savoir combien de femmes accouchent en solo. Il n'y a pas de chiffre officiel car elles n'ont pas le droit de demander une aide médicale pour tomber enceinte, ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Alors, elles se débrouillent. Certaines partent à l'étranger où la PMA est autorisée, en Belgique, en Espagne. D'autres choisissent un donneur de sperme à l'étranger et trouvent en France des gynécologues compatissants qui font l'insémination et le suivi de la grossesse. Et puis d'autres font appel au système D, un ami proche qui donne son sperme, sans oublier la possibilité de la rencontre d'un soir. Tout est possible car ces femmes sont déterminées, célibataires à l'approche de la quarantaine, après une vie amoureuse sinueuse. Elles ne veulent en aucun cas renoncer à la maternité. Le désir d'enfant l'emporte sur tout, surtout la peur du regard des autres, la peur d'élever un enfant seul, la peur de ne pas savoir lui répondre quand il va le demander. Et il est où, mon papa? Comment faire un bébé toute seule? Comment surmonter les obstacles? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous votre parcours de maman solo. Nous sommes là pour vous écouter.
Si vous aussi vous souhaitez témoigner auprès d'Ève, passez-nous un petit coup de fil au standard Europe 1 au 3921. Benjamin vous réserve un accueil chaleureux. Pour nous écrire en direct, c'est très simple aussi. Vous avez le groupe de l'émission Partageons nos expériences de vie sur Facebook, sur la page Facebook d'Europe 1. Et enfin, bien entendu, vous pouvez nous contacter via Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1, 15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Mais c'est à propos de tes fesses.
À propos de mes fesses?
À propos de tes fesses. Je cherchais la clé, tu sais.
Et t'as maté mon cul?
Oui.
T'as maté mon
oui.
cul?
Oui, oui.
Tu veux dire que si j'avais pas été lesbienne, tu m'aurais bien baisé?
Oui, non. Oui, pouf.
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 Ce serait pas une mauvaise idée, en fait. Hein.
Ouais. Tu peux voir ma cocotte?
Bonne nuit.
On vient d'entendre un extrait du film « Et ta sœur » de Marion Vernoux où Virginie Efira piège un homme avec un préservatif percé. On parle aujourd'hui de celles qui ont choisi de concevoir un bébé sans père pour l'élever ensuite. Avec vous, Ève Roger.
Oui, bonjour Audrey, nous commençons avec vous. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, merci, bonjour.
Quel âge avez-vous Audrey et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 41 ans et là je suis en vacances dans le sud de la France, mais sinon j'habite à Paris.
Alors on peut le dire tout de suite Audrey, vous êtes enceinte de 5 mois d'abord, c'est magnifique, bravo. Et vous vous êtes lancée dans l'aventure de la PMA, non pas de gaieté de cœur dites-vous, mais à la suite de plusieurs déconvenues amoureuses.
Oui, enfin surtout une en fait, qui a eu lieu il y a assez longtemps, oui. Qui était une grosse rupture. Bon, je pense qu'on en a tous connu des ruptures, oui. C'est difficile. Et c'était il y a presque 7 ans.
Donc vous aviez 34 ans, c'est ça à l'époque?
J'avais 34 ans, oui. Mmh. Donc c'est assez, finalement c'est pas vieux hein, 34 ans.
Non.
Ça va vite.
Et donc vous avez rompu et c'était à l'âge où on commence à se demander est-ce qu'il n'est pas temps de faire un enfant, c'est bien ça?
Exactement.
Sans donc, oublier vraiment la souffrance, oui.
C'était vraiment la double peine parce que non seulement c'était une rupture amoureuse et puis en plus je rentrais dans la zone rouge en fait au niveau
de la fertilité.
Ouais. Et c'était très difficile je trouvais à assumer cette double peine.
Alors qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là?
Eh ben en fait à l'époque donc c'était en 2012 on n'entendait pas du tout parler de la vitrification d'ovocytes et tout ça. Moi j'avais aucune amie qui l'avait fait, mm-hmm. Et je ne sais plus comment j'en ai entendu parler, mais j'en ai entendu parler je crois. Enfin j'ai lu un article sur internet j'allais souvent en Espagne pour mon boulot et donc j'ai décidé d'aller rencontrer une clinique à Barcelone pour.
Alors pour congeler vos ovocytes, c'est ça
exactement.
Parce que pour nos auditeurs congeler les ovocytes c'est une façon de les garder pour plus tard même quand
exactement.
On n'est plus fertile. C'est ça.
Exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée plusieurs fois. Et en tout, j'ai congelé 20 ovocytes à Barcelone, dans une clinique.
Parce qu'à l'origine, ce n'était pas pour faire un enfant tout de suite. C'était au cas où, c'est bien
exactement.
Ça.
Exactement. C'était pour préserver ma fertilité pour plus tard, en espérant rencontrer un autre amoureux.
Et voilà, alors, ensuite?
Et alors, j'en ai rencontré un autre, mais ça s'est à nouveau fini. Enfin, j'ai eu une vie amoureuse comme tout le monde, bref.
Ouais.
Et puis, j'ai eu une nouvelle rupture il y a un peu plus d'un an. Et là, je me suis dit qu'il était temps d'agir. J'avais 40 ans, donc pour le coup, j'étais prête, en fait. J'avais longuement réfléchi et je me sentais prête de toute façon à avoir un enfant. Il n'était pas question que je m'assoie sur la maternité, en fait. C'était impossible.
Donc là, vous êtes dit, je me jette dans le grand bain, je vais chercher mes ovocytes, et là...
Exactement. Donc j'ai pris un avion pour Barcelone, comme une bonne élève. Et puis en fait, là, catastrophe, la clinique avait perdu la moitié de mes ovocytes. Ils n'ont jamais été capables de m'expliquer ce qui s'était passé.
S'ils étaient perdus ou s'ils avaient perdu leur vigueur.
Voilà, non, ils ne savaient pas. Enfin bref, je savais pas, et donc c'était, alors là aussi c'était un gros coup de théâtre, mais dans le mauvais sens du terme. Et c'est un peu le problème quand on va à l'étranger, c'est qu'on n'a pas de recours, c'est-à-dire que quand il arrive quelque chose comme ça, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et donc il m'en restait 10 qui ont donné lieu à 5 embryons, et aucun embryon n'a donné lieu à une grossesse.
Alors finalement, heureusement qu'on a dit au début de l'émission que vous étiez enceinte de 5 mois. Alors comment vous avez réussi finalement ?
Du coup, alors c'était quand même, c'était une situation qui était assez délicate à gérer. J'ai tout changé, j'ai changé de clinique, j'ai changé de gynéco en France, j'ai refait tous les examens, toutes les analyses pour mesurer aussi mon taux de fertilité, puisqu'on peut le mesurer avec grâce à une hormone qui s'appelle l'hormone antimullérienne, la MH. Et évidemment, entre-temps, elle avait beaucoup dégringolé, puisque j'avais 40 ans, donc elle était assez faible, ce qui est normal pour une femme de 40 ans. Et du coup, mon gynéco m'a dit, vous avez 10% de chance d'avoir un enfant avec vos gamètes. Donc, on peut tenter le coup, mais c'est 10% avec un traitement qui est assez lourd. Ou alors, il y a une alternative qui est le double don. Donc, don d'ovocytes et le don de sperme.
Oui.
Et là, les chances sont de l'ordre de 60%. Donc, c'est pas du tout la même chose.
Touchant au but. Vous êtes tombée enceinte comme ça. Alors, c'était à l'étranger ou c'était en France ? C'était à l'étranger ?
Non, c'était en Espagne, bien sûr.
Ah oui, c'est ça.
C'est interdit en France.
Donc, et ça a marché dès le premier coup ?
Non, il a fallu s'y reprendre à 3 fois. Ah oui. Donc, non, ça ne marche pas. 60%, ce n'est pas 100%. Ouais, hein. Donc, ça a marché au troisième coup.
Donc, maintenant, on dit, ça y est, enfin. Et comment vous vous sentez aujourd'hui, Audrey ?
Moi, je me sens très bien. Moi, je me sens très bien. Après, je pense que le double don, c'est une étape psychologique qui est importante. Ça implique quand même d'abandonner, entre guillemets, son patrimoine génétique, ce qui n'est pas un petit sujet, c'est un vrai sujet. Je pense que ça demande une mûre réflexion. Il faut être prêt à tout ça.
C'est-à-dire que ce ne sont ni vos ovocytes, ni le sperme d'un homme que vous connaissez qui aurait pu être un mari. Voilà.
Exactement. Mmh. Mais après, c'est mon enfant.
Voilà.
Enfin, ce sera mon enfant. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que je ne pourrai jamais retrouver les yeux de ma mère, les jambes de mon père ou mes cheveux. Quoi. Ça, c'est pas possible.
Mmh. Et ça vous fait de la peine ?
Moi, pas du tout. Mais j'ai passé ce cap. Mais je pense que c'est un cap à passer. C'est un vrai cap à passer.
Donc, on l'a dit, vous êtes enceinte aujourd'hui de 5 mois. Est-ce que vous avez organisé l'accouchement avec quelqu'un peut-être, un proche ?
Oui, c'est prévu. Et oui, il y a eu beaucoup de candidats. Donc, j'ai de la chance. non, j'ai de la chance, oui. Je suis très entourée. Ça, c'est très important, je pense, d'être très entourée. J'ai une famille qui me soutient beaucoup. Et j'ai surtout des amis qui sont très présents.
Alors, ce qui est intéressant avec vous, et puis on l'entend dans votre voix, c'est cet optimisme qui vous tient, et vous êtes confiante dans la vie, parce que je crois que vous pensez même en faire un second, puis après aussi avoir un mari.
Alors, un second, oui.
Pas un second mari, un second enfant.
Non, un second enfant, oui, j'y pense beaucoup. On va déjà terminer le premier. Ouais. Et puis voir ce que ça donne. Mais j'y pense beaucoup, mais ça, c'est pour des raisons qui sont très personnelles. Moi-même, je suis fille unique et je trouve que c'est pas très drôle d'être fille unique. Donc, voilà. Après, on verra encore une fois ce que ça donne. Après, évidemment, je pense que personne n'est célibataire toute sa vie. Donc, moi, j'ai pas du tout l'intention de le rester et je sais que je vais pas le rester. Et à Paris, il y a quand même énormément de gens qui sont en famille recomposée, etc. Enfin, c'est légion. Donc,
il n'y a pas de raison que ça vous n'arrive pas.
Tout naturellement, m'inscrire dans ce schéma.
C'est formidable, Audrey. Nous, on vous souhaite vraiment un très bon accouchement. On vous souhaite tout le bonheur possible. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Marie, qui, elle, a choisi son donneur de sperme sur catalogue au Danemark.
Europe 1.
Ève Roger est avec vous jusqu'à 16h sur Europe 1 pour la joindre et raconter votre histoire. Appelez au 3921, 50 centimes d'euros la minute.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant.
C'était les Brigitte à l'instant avec un texte plein d'aplomb et de malice. Je veux un enfant. Le désir de faire un enfant sans conjoint, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui avec Ève Roger.
Bonjour Marie, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous Marie et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 39 ans et je suis de Paris.
Alors Marie, vous avez donc 39 ans, vous êtes célibataire. Et avant que vous nous racontiez votre histoire, dites-nous depuis combien de temps vous pensez à faire un bébé toute seule ?
Et bien pas depuis si longtemps que ça, parce que en fait je m'étais juste dit que le temps passait et que j'étais toujours célibataire à mon âge, donc je voulais juste anticiper. Et j'avais parlé de ça avec ma gynéco qui m'a fait faire quelques examens et qui ne s'avérait pas super bon au niveau de la fertilité. Mmh. Et en fait le moment était venu quoi, et c'était soit maintenant, soit prendre le risque de passer à côté si on attendait plus.
Ouais.
Et je ne voulais pas passer à côté, donc c'était le bon moment pour moi, en fait, et j'étais prête.
Est-ce que c'est une décision difficile à prendre, justement, de faire un bébé toute seule ?
Pas pour moi.
C'est vrai ?
Pas pour moi, du tout.
Dites-nous.
Du tout, c'était une évidence, en fait. C'était juste tellement important pour moi de vivre cette étape-là de la maternité que ce n'était pas du tout un problème.
Et à qui vous en avez parlé ? Est-ce que vous avez pu en parler, je ne sais pas, à vos parents, peut-être, ou à vos amis ?
Oui, bien sûr. Oui, à tout le monde. Tout le monde est très au courant autour de moi. Je suis extrêmement bien entourée, mes parents, ma famille, mes amis, mes collègues de boulot, tout le monde.
Avant de parler du procédé, comment vous avez entendu des choses sans doute diverses et variées ? Tout le monde a trouvé ça chouette ou il y a eu des gens qui ont dit « Ah,
non,
t'es sûre ?»
Non, évidemment que c'est très compliqué pour certaines personnes de comprendre cette démarche-là et je comprends que ce soit compliqué.
Oui.
Et je respecte le fait que ça soit compliqué pour certaines personnes d'adhérer complètement à 100% à cette démarche-là, mais après c'est mon histoire, et ce sera l'histoire de mon enfant, de mon fils en l'occurrence.
Ouais.
Moi je suis très à l'aise.
Vous avez dévoilé, vous avez spoilé la fin de l'histoire. Vous êtes sur le point d'accoucher, vous attendez donc un petit garçon, c'est ça ?
Exactement.
Alors juste, avant que vous nous racontiez, vous dites qu'il y en a qui n'adhèrent pas à cette histoire. C'est quel profil ? C'est plutôt les gens les plus proches de vous ? C'est plutôt les plus éloignés ? C'est les plus âgés ? Qui est le plus de réticence ?
Ce n'est pas forcément des gens très âgés, ce n'est pas forcément des gens de province, c'est pas forcément, c'est parfois les gens qui estiment que ce n'est pas normal.
Ah, c'est
et
la
ce terme de normalité, voilà, qui moi me pose un problème parce qu'il n'y en a pas, à mon avis, mais qui et bizarrement qui reste quand même très chaleureux et très
empathique
à mes côtés, oui, voilà, mais qui exprime le fait que ce n'est pas normal.
Alors, Marie, dites-nous maintenant, comment vous avez procédé ? Est-ce que c'est difficile de trouver un procédé pour faire un enfant seul aujourd'hui en France, alors que normalement, c'est interdit, vous n'avez pas le droit à la procréation médicalement assistée ?
Non, parce que même si je ne suis pas gay, même si je suis hétérosexuelle, je suis célibataire, et la PMA pour les femmes célibataires, c'est interdit. J'ai la chance de vivre à Paris, d'abord. J'ai la chance d'avoir croisé des gens qui m'ont mis en relation avec mon médecin qui m'a aidée dans cette démarche-là à faire en sorte que ça puisse se faire à Paris. Je n'ai pas eu besoin de partir à l'étranger.
Ah ouais.
J'ai juste fait appel à une banque de donneurs qui se trouve au Danemark et qu'on peut trouver sur Internet et à choisir un donneur en ligne. Et ensuite, la dose dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin m'a été envoyée.
Alors, choisir un donneur en ligne, il faudrait que vous nous disiez un peu plus, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant.
On peut choisir un donneur avec des critères qui nous sont chers et qui sont importants pour nous, et ça va de la couleur des yeux jusqu'au groupe sanguin. Moi, ma priorité, c'était que cette personne, ce donneur, ne soit pas anonyme.
Oui.
C'est-à-dire que mon enfant puisse le rencontrer au moment où il en aura envie.
À n'importe quel âge ?
À sa majorité.
D'accord.
Pour le moment, mais c'est en train de changer aussi, ça, c'est dans les discours. Moi, c'était très important que mon enfant puisse accéder à ses origines, s'il en avait le souhait, le besoin, l'envie, au moment où il en aura envie. Donc ça, c'était moi, c'était mon critère principal. Il y a plein d'autres critères qui rentrent
dans les possibilités, c'est-à-dire la couleur de cheveux, les yeux, la peau.
Oui, parce que, après, voilà, moi, mes deux critères principaux, c'était le fait qu'il ne soit pas anonyme et la compatibilité du groupe sanguin.
D'accord.
Parce que je voulais que mon enfant puisse être compatible avec moi si un jour il y a un problème. Mmh. Après, le reste, ça avait moins d'importance. Et après, évidemment, on consulte tous les profils. Il y a plein de choses, il y a plein d'infos. Il y a même des choses très intimes comme la chanson préférée, la couleur préférée ou le meilleur souvenir de vacances de cette personne. Et surtout, il y a un texte écrit de sa main qui explique pourquoi ils font ça en fait. Quelle est leur démarche ? Pourquoi le donneur décide de donner ? Il y a des photos de enfants, pas adultes.
Ah oui, ah oui.
Ouais. Mais c'est vrai qu'au départ, on est tenté de regarder les photos. De dire, ah oui, bah, on choisit sur les photos. Puis très vite, on se rend compte que c'est pas ce qui est important.
Ouais.
Ce qui est important, c'est ce qu'ils racontent. et d'être sûre que le jour où mon enfant se retrouvera face à son géniteur, si un jour il le décide, que le discours soit en accord avec ce que moi je pense. Mmh.
Ce qui est le cas là dans le choix que vous avez fait.
Ah ouais, ouais, ouais. Oui, mmh. Oui, c'est très clair. Et j'aurais dû choisir, si j'avais choisi sur photo, j'aurais pas choisi.
Alors dites-moi, est-ce que, on l'a dit, vous êtes sur le, au point, sur le point d'accoucher. Est-ce que c'est, est-ce que, dans quel état vous êtes là, au, c'est dans, dans les jours qui viennent?
Ouais, alors je suis très sereine, moi. Mmh. Je suis très entourée. Je sais qu'il va y avoir plein de monde avec moi le jour J. Je serai accompagnée par mon meilleur ami qui s'est fait tous les cours d'accouchement avec moi. J'ai jamais passé une écho toute seule. J'étais toujours accompagnée par un, deux, voire trois amis ou mes parents. Voilà, tout le monde attend cet enfant avec impatience. Il est déjà très entouré.
Eh ben oui, ça c'est une bonne nouvelle. Dites-moi, vous, est-ce que vous appréhendez la suite?
Pas du tout.
Non, de l'élever, tout ce qui va suivre après, ça dure des années.
Non, pas plus que n'importe quelle autre mère, je pense.
D'accord.
Voilà, c'est comme les enfants des divorcés dans les années 70 qui étaient stigmatisés. Et ben, aujourd'hui, ils ne le sont plus. Et du coup, il faut que la mentalité évolue et tout ça. Parce qu'à partir du moment où lui, ça ne lui pose pas de problème, le reste, on s'en fout.
Eh bien, tant mieux. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très bon accouchement, Marie. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir témoigné pour nous.
Avec plaisir.
Merci, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Et nous accueillons dans quelques instants dans notre studio le professeur Rachel Lévy. Elle est chef du service de biologie de la reproduction à l'hôpital Tenon, APHP, à Paris.
Europe 1.
Pour témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au standard d'Europe 1, 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook de l'émission Partageons nos expériences de vie. On est avec Ève Roger jusqu'à 16h.
Ève Roger sur Europe 1.
Une mère, ça fait ce que ça peut. Ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille.
Elle a conquis le cœur des Français. C'était la Québécoise Linda Lemay qui parle avec poésie de la maternité. Notre émission Partageons nos expériences de vie est consacrée au choix d'un bébé en solo, Ève Roger.
Oui, et je me tourne maintenant vers vous, professeur Rachel Lévy. Vous êtes chef du service biologie de la reproduction à l'hôpital Tenon APHP à Paris. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Merci infiniment d'être avec nous en direct et en studio en ce vendredi 16 août. Alors déjà, je voulais savoir dans votre pratique quotidienne qui est de réaliser tous les actes biologiques de la procréation médicalement assistée, vous ne les voyez pas, ces femmes qui décident de faire un enfant toute seule, mais vous savez qu'elles existent.
Oui, bien sûr, on sait que cette situation existe et on sait également, et les témoignages que l'on a entendus vont dans ce sens, les femmes trouvent des solutions et certaines de ces solutions vont passer par nos services également de biologie de la reproduction.
Alors, quand elles passent dans vos services, c'est qu'elles sont, elles font mine, enfin, je ne sais pas comment utiliser le terme, d'être en couple, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les femmes en couple depuis 2 ans, en situation d'infertilité, qui ont droit à la procréation médicalement assistée.
Tout à fait, c'est la notion de couple aujourd'hui qui prévaut, et c'est cette notion de couple qui, possiblement, va sauter avec la loi de bioéthique qui est en cours d'études.
Et de discussions au Parlement, à l'Assemblée.
Oui.
À l'automne. Alors, concevoir un enfant par PMA quand on est d'une femme seule, et ça vaut aussi quand on est en couple, c'est vraiment un parcours d'obstacles. On l'a vraiment entendu dans ces témoignages, un parcours douloureux. Vous confirmez ça?
Alors, c'est une aventure. Mais la grossesse en elle-même, même en dehors de toute notion d'assistance médicale à la procréation, c'est une aventure. Puis le fait de découvrir un bébé et de passer les premières années avec son enfant, c'est aussi une aventure. Cette aventure, c'est vrai qu'elle peut être un peu plus compliquée quand elle nécessite des étapes médicalisées, comme c'est le cas dans l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'un couple ou qu'il s'agisse d'une femme seule.
Et vous avez peut-être des statistiques? Quelles sont les chances d'aboutir quand on essaie de faire une PMA? Au bout de combien de tentatives en moyenne, on arrive à tomber enceinte?
Alors bien sûr, ça dépend de beaucoup de facteurs et l'un des facteurs principaux, c'est l'âge. L'âge de la femme, c'est le facteur majeur. Donc cette chance spontanée de concevoir, elle est à peu près de 25% dans la meilleure condition, c'est-à-dire à 25 ans et sans aucun facteur de pathologie. Ouais. Et on sait que ce pourcentage, il va diminuer de façon drastique statistiques au fil du temps et on est en effet autour de 40 ans à 10 voire 5% voire moins de chances d'obtenir une naissance vivante.
Mais c'est une grossesse naturelle.
Oui, tout à fait.
C'est ça, mais avec la PMA, à quel âge il faut faire un parcours de PMA?
On a les mêmes chiffres. Hein. C'est malheureusement, comme l'a très bien dit l'une des
nous avons eu Audrey et Marie
qui témoignaient, malheureusement, physiologiquement, l'avancée de l'âge de la femme s'accompagne d'une diminution de ce taux d'hormones antimullériennes, cet indicateur, et s'accompagne d'une diminution de ce qu'on appelle la réserve ovarienne, c'est-à-dire le nombre d'ovocytes disponibles. Et ça, c'est vrai malheureusement, que ce soit en grossesse spontanée ou en grossesse en assistance médicale à la procréation.
Alors, on l'a entendu avec nos témoignages, Audrey et Marie, comment expliquer ce désir d'enfant à tout prix de ces femmes? C'est un désir profondément ancré, on l'a entendu, mais est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que c'est hormonal, ce désir d'enfant?
Un peu de tout, je pense. Oui. On retrouve ce désir d'enfant, bien sûr, pour les couples et également pour les femmes seules. Il y a cette force terrible qui nous pousse tous à obtenir une grossesse, une naissance, et à pouvoir transmettre. Il y a cette notion de transmission qui est très importante.
Mais vous dites toutes, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour toutes, justement. Pourquoi certaines, plus que d'autres, ont ce désir chevillé au corps comme ça?
Alors, il faudrait leur poser...
Mais je me disais, il y a peut-être quelque chose de médical ou d'hormonal, non?
Non, je ne pense pas qu'il y ait... C'est culturel, c'est sociétal. Certaines... Alors, nous, on voit en consultation des femmes, mais pour autoconservation. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas donner suite à leur demande.
Autoconservation des ovocytes.
Hein. Autoconservation des ovocytes dans le cadre de l'âge, c'est-à-dire pas dans le cadre d'une indication médicale. Et on retrouve ce désir d'enfant très fort chez ces femmes.
Mmh. Et est-ce que le fait que la loi autorise les femmes seules à avoir accès à la PMA, est-ce que vous, en tant que professionnelle, ça vous inquiète? Ou peut-être même en tant que femme?
Alors, ça ne nous inquiète pas, d'autant plus que l'ensemble des sociétés savantes dans le domaine de la reproduction se sont battues, ont plaidé en faveur de l'ouverture de cette possibilité d'accès aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais alors, c'est plus qu'une évolution, c'est quasiment une révolution dans l'assistance médicale à la procréation. Et c'est un événement qu'on attend, oui, tous les professionnels, avec beaucoup d'impatience, mais aussi avec beaucoup de prudence, parce qu'on sait que ça va être compliqué. Et on espère aussi qu'on aura les moyens de donner suite à toutes ces demandes dans les meilleures conditions possibles.
Ça. Parce que vous avez fait une évaluation, combien de femmes vont se présenter à vous? Est-ce qu'on sait?
Non, comme vous l'avez très justement dit, on ne le sait pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les voix qu'elles utilisent ne sont pas des voix que l'on peut compter, évaluer. On sait qu'on va avoir une demande, on pense qu'aussi on va avoir une demande qui d'emblée va être importante parce que ces femmes entendent les évolutions des propositions de la loi de bioéthique, donc j'imagine qu'elles se disent « ça va être possible, donc on attend un peu et on essayera de mener ce projet en France ». Donc on pense qu'on va, dès l'ouverture, avoir une demande un petit peu plus forte et puis ensuite que ça va se régulariser en fonction du temps.
Et selon vous, est-ce qu'il va y avoir un problème de quantité de sperme disponible, comme on l'entend ici et là, puisque vous dirigez aussi le SECO, c'est un peu la même chose, de l'hôpital Tenon, c'est le centre qui recueille justement les dons de sperme. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un problème de pénurie?
Alors, il y a déjà un problème de pénurie. Le problème de pénurie lié à l'insuffisance de paillettes de spermatozoïdes, donc de donneurs, existe. Ouais. Même si récemment, durant les dernières années, grâce aux modifications législatives, il a été possible pour des donneurs et des donneuses qui n'avaient pas d'enfants de venir donner leurs gamètes. Et grâce à ça, on a eu une augmentation très significative du nombre de donneurs. Mais ça ne suffit pas. Et de façon claire, les modifications de la loi de bioéthique qui sont aujourd'hui discutées risquent également de ne pas nous aider dans la possibilité de trouver des paillettes disponibles. Oui.
Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le temps d'attente? On parle de plusieurs mois pour un couple justement qui a besoin d'un don de sperme. Il faut combien de temps?
On est selon les centres entre 12 et 18 mois.
D'attente. Donc une femme qui va arriver peut-être en janvier 2020, ça sera encore plus que de 12-18 mois.
Alors, on va essayer, bien sûr, de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Aujourd'hui, tous les professionnels vont faire leur possible pour que ces nouveaux accédants à l'assistance médicale à la procréation soient pris dans les meilleures conditions et avec le délai le plus court.
Donc, en tout cas, ça va se faire. Ça, maintenant, on est sûr. Comment,
en tout
combien
cas,
de temps
les propositions de la loi de bioéthique auxquelles nous avons accès semblent aller en ce sens. Après, vous connaissez les échanges qui vont avoir lieu entre les différentes instances. Et puis aussi, beaucoup de ces activités seront cadrées par des décrets qui devront être pris en associant les sociétés savantes.
Restez avec nous, professeur Rachel Lévy. Vous êtes chef du service biologie de la reproduction à l'hôpital Tenon à PHP à Paris. Et dans quelques instants, nous allons accueillir Imane. Elle a adopté un enfant il y a un an et demi.
Europe 1.
Peut-être avez-vous le projet de faire un enfant seul. C'est un choix mûrement réfléchi. Si vous souhaitez réagir vous aussi et partager votre expérience de vie, contactez-nous au Standard Europe 1. C'est Benjamin qui vous répond.
Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager.
D'accord.
Enfin, d'accepter que j'aurai jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport.
Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mines et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ.
C'est un petit garçon. Vous voulez le voir ?
Bonjour, je suis assistante sociale.
Je veux pas le garder.
C'était un extrait du film de Jeanne Herry, Pupille, dans lequel la comédienne Élodie Bouchet adopte un enfant alors qu'elle est séparée de son conjoint. Jusqu'à 16h avec Ève Roger, on parle de celles qui ont fait le choix d'un enfant coûte que coûte, sans papa.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Imane. Bonjour Imane, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors Imane, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 39 ans et je vous appelle de Montpellier.
Alors Imane, vous avez adopté un enfant en solo il y a un an et demi. Alors pourquoi ce choix de l'adoption plutôt que de la PMA ?
Alors c'est quelque chose que j'ai entre guillemets en projet depuis que je suis toute jeune, hein, depuis que j'ai 20 ans.
Ouais.
La PMA, ça m'a aussi traversé l'esprit parce que c'est vrai que porter un enfant, c'est aussi une expérience que j'aurais aussi aimé faire. Mais ça ne me correspondait pas. En fait, j'avais un peu du mal à... C'est l'histoire que j'allais raconter à mon enfant plus tard qui me dérangeait.
Ah oui. Et ce parcours d'adoption, est-ce qu'il a été long et douloureux, comme on entend souvent ?
Il a été long. Mmh. Il a été un peu douloureux. Mmh. Évidemment. Parce que oui, c'est long. C'est pas... Mais par contre, moi, j'ai eu énormément de chance. Ça a été beaucoup plus rapide que d'autres parents... Qui souhaitent l'adoption.
Et donc, vous avez eu un petit garçon, je crois, de 3 mois ?
Oui.
Et
oui.
Il y a de ça un an et demi ?
Oui.
Alors, Imane, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on élève un enfant seul ?
Eh bien, on est seul. Parce que, en fait, non, je suis assez entourée hein, de la famille, des amis, etc. Ouais. Mais on est seul face à un petit bout. On comprend pas tout de suite, on n'est pas mère tout de suite, on apprend aussi à devenir maman en s'adaptant à son bébé.
Est-ce que c'est, voilà, on imagine les nuits, les premières nuits quand le bébé dort pas,
c'est quelque chose de très infernal en fait. Ouais, oui. C'est le manque de sommeil, il est infernal pour l'esprit. Hein. ouais, j'ai eu des moments où c'est où je pleurais à 3h du matin en fait.
C'est ça.
J'étais démunie. Et puis, comme je crois, ça c'est bien après, avec du recul, on se dit, on n'est pas une bonne mère, parce qu'une bonne maman, elle sait calmer un enfant. Il y a plein de doutes, plein de questions, et en fait...
Que vous étiez renseignée avant ? Enfin, je ne sais pas, vous aviez lu ? Est-ce que vous étiez préparée, j'allais dire ?
J'étais préparée, oui et non. Comme ça a été plus rapide que
prévu.
Mais on se prépare jamais assez. On peut lire tous les bouquins du monde. Mmh. C'est comme une maman quand elle vient d'avoir un enfant. Faut s'adapter. Donc ouais, c'est assez difficile. Enfin, les débuts, c'était très difficile.
Et aujourd'hui, il a un an et demi. Est-ce que c'est il y a d'autres difficultés qui sont apparues ou qui ont disparu peut-être ?
Oui, des difficultés qui ont disparu. Hein, le sommeil, par exemple. On apprend aussi à prendre du recul et à se dire, en fait, à se questionner sur l'enfant. Pourquoi il est comme ça ? Et puis petit à petit, quand on commence à lâcher prise et à se dire, en fait, Ah ben je suis pas une maman parfaite, je suis juste une maman. Ça, bizarrement, ça calme aussi l'enfant.
Mmh. Et est-ce que parfois c'est pas dur d'être tout le temps en tête à tête, enfin tête à tête ou avec des amis, mais toujours en tête à tête avec l'enfant?
Ah si, bien sûr que c'est dur. On peut pas. Enfin, on est des adultes, on a besoin de liens sociaux. Moi, quand j'ai repris le travail, par exemple, j'étais très contente.
Oui.
Avoir un lien social et ne pas être. Et en fait, on profite beaucoup plus. Enfin, en tout cas, pour mon cas, parce que je suis restée quand même 6 mois avec lui. Hein.
C'est-à-dire, vous êtes restée 6 mois avec lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
H24. C'est-à-dire, j'ai travaillé.
Ah oui, d'accord. Vous avez recommencé à travailler au bout de 6 mois. Donc 6 mois en tête à tête.
6 mois en tête à tête. Mais ouais. Il fallait ça pour le lien d'attachement, etc. Enfin, ouais. Pour moi, c'était.
C'était l'adoption. Hein. C'est vrai, je rappelle à nos auditeurs que vous avez adopté cet enfant, ce qui n'est pas tout à fait pareil que la PMA, oui.
Non. Et donc, voilà, il fallait créer ce lien, etc. Mais après, quand j'ai repris le travail, les choses, bizarrement, allaient mieux. C'est toujours difficile d'être mère célibataire. Hein. Mm-hmm. C'est pas... Parce qu'il faut le déposer le matin à la crèche, il faut le récupérer le soir aussi. Donc, c'est pas... la personne... Enfin, si on est en couple, c'est pas...
Chacun son tour. C'est pas chacun son tour.
C'est pas chacun son tour. Là,
ouais, c'est ça. C'est vous tout le temps.
C'est moi tout le temps.
Et le week-end aussi. Alors, moi, j'ai des souvenirs de parcs, de squares avec les enfants. Ça doit être long quand on peut pas justement alterner avec quelqu'un d'autre.
C'est un peu long, hein. Celui qui dit j'adore les squares et reste 3 heures.
Merci, Iman.
Non, mais c'est vrai, on peut pas adorer, c'est pas possible. Mm. Mais c'est génial quand on voit l'enfant évoluer, etc. C'est super. Mais après, voilà, moi je me suis autorisée quand même des moments, une fois les 6 mois passés, à avoir des moments rien que pour moi.
Et comment vous faisiez avec l'enfant?
Avec l'enfant, c'est mamie qui le gardait.
Ah, voilà.
Et oui, j'ai la chance d'avoir.
C'est ça,
la
vous êtes entourée, vous pouvez le laisser de temps en temps.
Oui, de temps en temps. C'est oui. Au début, non, je refusais de le laisser à qui que ce soit. Mais après, j'ai pris. On sent bien qu'il faut décompresser.
Oui, c'est important. Donc, et Iman, alors on parle un peu des côtés négatifs, mais parlez-nous pour terminer des côtés positifs.
C'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Enfin, tous les mots qui. C'est un amour qui est inconditionnel. C'est extraordinaire de voir ce petit bout évoluer, de voir qu'on a fait quand même un parcours. Mon fils, évidemment, j'ai l'impression qu'il a eu son doctorat 72 000 fois au premier moment, au premier pas. Donc c'est extraordinaire.
Et comment vous envisagez l'avenir? Comment vous l'imaginez?
Comme je suis complètement folle, non, je plaisante. Je crois que je vais me lancer dans une adoption pour un deuxième enfant.
Ah, toujours célibataire, toujours en célibataire.
Pour l'instant, mais pourquoi pas.
Ça sera pour une autre émission, Iman, alors.
Ça sera voilà.
Vous nous raconterez un homme qui arrive dans la vie d'une femme qui a déjà 2 enfants adoptés. Ça sera une belle histoire.
Oui. Ça serait une très belle histoire.
Bon, je vous remercie infiniment, Iman, de nous avoir fait partager votre expérience de vie. Et puis, dans quelques instants, nous serons avec Olivia. Vous allez l'entendre. Olivia est une pionnière. Elle a fait un enfant par PMA la première fois il y a 7 ans. Et depuis, elle en a fait un autre il y a 3 ans.
Europe 1. Peut-être avez-vous aussi fait le choix audacieux et courageux d'avoir un enfant seul. N'hésitez pas à réagir au 3921, le standard d'Europe 1. Jean-Jacques Goldman à l'instant avec le titre incontournable « Elle a fait un bébé toute seule » qui rend hommage à celles qui font le choix de la famille monoparentale. Une décision qui demande réflexion. On parle de concevoir un enfant toute seule avec vous, Ève Roger, jusqu'à 16h.
Et oui, nous accueillons maintenant Olivia. Bonjour Olivia, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour Ève, merci à vous.
Quel âge avez-vous Olivia et d'où nous appelez-vous?
Alors aujourd'hui, j'ai eu 49 ans hier.
Ah, bon anniversaire.
Merci.
Bel âge.
Et je vous appelle des Baléares.
Ah.
Où je suis en vacances en famille. Voilà.
Alors, vous, Olivia, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez eu deux filles nées par PMA, une petite de 7 ans, une autre de 3 ans. Et vous dites, malgré oui. tout, que c'est un choix par dépit hein, de passer par la procréation médicalement assistée.
Alors, en fait, si vous voulez, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui décident de faire un enfant toute seule par choix dès le départ. On arrive à ce choix-là quand on avance en âge, quand l'horloge biologique commence à sonner, qu'on n'a pas trouvé la personne avec qui on a envie de fonder cette famille et on se pose des questions par rapport à sa maternité en se disant, est-ce que j'accepte l'éventualité de passer à côté ou est-ce que... je ne prends pas ce risque-là et je décide de concevoir un enfant avec don de sperme à l'étranger.
C'est ce que vous avez fait. Et je crois que vous avez écrit un livre qui s'appelle « PMA pour mon amour ». Vous dites « Les femmes célibataires qui veulent un enfant en France sont mal vues, ce qui n'est pas le cas en Belgique ».
Oui, alors effectivement, comme je l'écris, comme je l'ai mis dans mon livre, le désir que vous avez en France jusqu'à maintenant était assez illégitime parce que ce désir, s'il ne s'inscrivait pas dans un couple hétérosexuel avec un problème de
fertilité.
Voilà, de fertilité, voilà, vous n'aviez aucune raison d'avoir accès à la PMA en France. Donc votre désir était quelque part illégitime. Alors qu'en Belgique, quand je me suis présentée en disant voilà, je suis une femme célibataire de 38 ans et j'ai envie d'avoir un enfant, eh bien, ça paraissait tout à fait normal au médecin qui m'a reçue qu'à mon âge, je puisse avoir envie d'avoir un enfant. Et je n'avais pas envie de le faire avec n'importe qui, ni de piéger un gentil monsieur que j'aurais croisé en boîte de nuit ou ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas trop mon lieu de fréquentation. on en trouve ailleurs. Mais je trouvais là, pour le coup, que c'était vraiment prendre les hommes pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire de potentiels géniteurs. Et je trouvais aussi que, par la suite, qu'est-ce que j'aurais dit à mon enfant ? Ton papa ne t'a pas reconnu ? Je n'ai pas dit à ton papa que j'étais enceinte ? Ton papa n'a pas voulu de toi ? Non, moi, j'ai choisi une voie qui était claire, nette, propre,
et ça a été un parcours, vous le dites, qui est incroyable. La première PMA, ça durait 3 ans, mais il y a eu des rebondissements incroyables.
Oui, Eve, parce que c'est la vie. Parce que quand on décide de devenir maman, d'abord, il faut savoir qu'on a 252 000 questions à la minute qui se posent, psychologiques, physiques, physiologiques, sur les traitements, etc. Et puis après, on n'en est pas moins une femme. Donc, on décide de faire un enfant toute seule. Mais s'il y a un ex qui revient, qui veut le faire avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, on dit non, on n'est plus très amoureuse, mais ce serait quand même mieux que cet enfant ait un père et une mère. Enfin, en tout cas, deux parents, parce qu'il pourrait avoir deux mamans ou deux papas.
C'est ce qui vous est arrivé. Votre ex a fait un aller-retour, quoi. Bon, finalement, à l'arrivée, vous êtes restée célibataire.
Exactement, je suis restée célibataire et j'ai pris la route, j'ai pris le Thalys pour aller faire ce bébé. Et aujourd'hui, j'ai une petite fille, comme je le dis dans mon livre, j'ai une petite fille de 7 ans qui s'appelle Lila.
Oui.
Et voilà, et puis je suis comme Imane, je suis un petit peu dingue moi aussi. Donc l'idée de la maternité, et je me suis tellement... si vous voulez, délecter dans cette bulle de maternité que j'attendais depuis si longtemps, que j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant. J'étais déjà en date de prépéremption parce que j'avais 33 ans.
Ouais.
Et donc, je suis en train d'écrire...
un deuxième livre, je crois, Olivia. Un deuxième livre qui raconte le deuxième parcours. Mais
exactement.
On y reviendra après, mais sur vos deux enfants que vous élevez seuls, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions.
Eh bien, écoutez, ça se passe bien.
C'est beaucoup, mais deux.
Non, mais en fait, ça se passe super bien. Et vous savez quoi? Deux, ça se passe parfois même mieux qu'un, parce qu'elles jouent ensemble. Elles sont hyper complices. Ouais. De voir leur lien... c'est extraordinaire pour moi, j'en ai souvent les larmes aux yeux de voir combien elles sont proches, ces deux petites filles. Et puis, en fait, moi je suis d'accord sur les squares, j'y vais quasiment jamais tellement ça me gonfle, je supporte pas les squares. Donc voilà, on fait plein d'activités à la maison, on fait plein de trucs, mais les squares, voilà. Je préfère aller courir dans les champs, ramasser des fleurs, mais les squares, voilà, c'est pas mon truc.
Bon, merci,
donc,
merci Olivia.
Voilà, et puis comme il n'y a pas de papa pour y aller à ma place, eh ben on n'y va pas. On fait du toboggan ailleurs parfois. Et puis sinon, non, moi j'ai consacré un chapitre de mon livre
à mes angoisses à moi qui étaient quand quand la petite était malade la nuit.
Ouais.
Parce que moi, j'ai pas eu de bol. J'ai une petite qui était souvent malade, systématiquement la nuit. Et alors, on a testé tous les moyens de transport pour aller à l'hôpital, hein, les pompiers, le SAMU, le taxi, l'ambulance. Donc, c'est vrai qu'à 2h du matin, quand vous avez un enfant qui est en difficulté, votre stress, vous ne pouvez pas le partager avec quelqu'un. La décharge émotionnelle, c'est vous qui la vivez toute seule. Ça, c'est dur. Oui, je ne vous le cache pas, c'est dur. Mais sinon, c'est tellement de bonheur à part ça que, mon Dieu, mais peut-être je vais en faire un troisième.
Mais Olivia, rien, Olivia, vous ne nous avez pas dit comment réagissait votre entourage, parce que c'est vrai que c'est tellement atypique que vous avez dû avoir des réflexions quand même.
Oui, alors évidemment, moi, cela dit, si vous voulez, j'ai fait des études de sage-femme quand j'étais jeune, et j'achetais par an à 11 ans, tous les mois, et je découpais les photos des femmes enceintes et des bébés in utero.
Ah oui.
Donc moi, j'étais clairement, si je n'avais pas été mère, j'aurais été profondément malheureuse.
Mmh.
Et à la différence d'Imane, c'est que moi, j'avais envie, profondément envie de porter un enfant, de le mettre au monde et de le porter. Donc, mes amis me connaissaient comme ça. Donc, quand je leur ai dit, ben voilà, je vais me décider à faire un enfant tout seul, ils n'ont pas été étonnés.
Ah, Olivia, ça y est, on vous perd dans le ciel des Baléares. Mais si vous m'entendez encore, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez décidé ou qu'est-ce que vous avez dit à vos filles de leur conception?
Ah, mais elles connaissent tout de leur conception, mes filles.
Mmh.
Depuis le départ, à la maternité, j'ai parlé à ma grande. Et depuis le départ, elle sait que je voulais très fort un enfant, que je n'ai pas trouvé d'amoureux et que je suis allée, j'avais une graine de madame donc pour faire le bébé, mais je n'avais pas de graine de monsieur. Donc j'ai choisi un monsieur pour me donner une graine de monsieur au Danemark. Et en fait, y a un médecin qui a mis la graine de monsieur et la graine de madame ensemble et ça a donné une graine de bébé qu'on a mis dans mon ventre et ma petite Lila a grandi et est née. Et aujourd'hui, j'ai tout un dossier parce que j'ai choisi un donneur ouvert et c'est très important de
dire. On en a parlé, oui, avec Marie, là, comment choisir le donneur à l'étranger. Mais Olivia, je vais vous laisser aller vous baigner au Baléares parce que vous avez bien de la chance. Je vous remercie infiniment pour votre témoignage. Je rappelle à nos auditeurs, vous avez raconté ce premier parcours de PMA dans un très joli livre, PMA pour mon amour aux éditions du Cherche Midi, un livre signé de votre nom, donc Olivia Knittel. Merci beaucoup Olivia. Et pour conclure cette émission, nous allons accueillir Myriam et vous allez entendre, elle a congelé ses ovocytes au cas où.
Europe 1.
Faire un enfant toute seule, et vous, qu'en pensez-vous? On attend vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou par téléphone au 3921. Jusqu'à 16h, on parle de la conception en solo d'un enfant avec vous, Ève Roger.
Et oui, pour conclure cette émission, nous avons avec nous Myriam. Bonjour Myriam, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors vous, Myriam Levin, je donne votre nom en entier car vous avez écrit un livre à partir de votre expérience « Et toi, tu t'y mets quand ?» chez Flammarion. Quel âge avez-vous, Myriam? Je peux vous le demander. D'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 37 ans et je vous appelle de Paris.
Alors vous avez décidé de congeler vos ovocytes. Dites-nous pourquoi. Quelles étaient vos motivations à ce moment-là?
Alors, moi, je venais d'avoir 35 ans et comme beaucoup de femmes de 35 ans, beaucoup de femmes de 35 ans ne savent pas que c'est un âge où la fertilité commence à baisser. On en a un peu parlé tout à l'heure.
Mm-hmm.
Les médecins disent qu'à partir de 35 ans, les ovocytes et les ovules, c'est pareil, d'une femme se dégradent en qualité et en quantité.
Mm-hmm.
Et du coup, quand on n'a pas eu d'enfant, qu'on n'est pas en situation d'en faire, il y a une solution médicale qui existe, qui s'appelle l'autoconservation des ovocytes, et qui consiste donc à les congeler et à les garder pour plus tard. Si on a un enfant un peu sur le tard, on a beaucoup plus de chances que la grossesse aboutisse, parce que la fertilité des femmes dépend vraiment de la qualité et de l'âge de leurs ovocytes, en fait.
Donc c'est le choix que vous avez fait. Alors comment vous avez su où aller, comment aller? Est-ce que ça vous a coûté cher?
Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en France, c'est interdit de faire ça, à moins d'avoir une pathologie grave comme de l'endométriose ou un cancer, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai la chance d'être journaliste, travaille sur les femmes, donc j'étais bien informée. Je savais que ça existait en Espagne et en Belgique, et du coup, je suis allée à Barcelone dans une clinique privée, où j'ai pris contact avec cette clinique. J'étais suivie par mon médecin français, qui n'est pas censé le faire, mais qui m'a accompagnée dans cette démarche.
Ouais.
Mais c'est vrai que, voilà, il est question que ce soit légalisé en France cette année.
Oui.
Et ce serait quand même un grand progrès pour les femmes de pouvoir faire ça en France.
On va bientôt en parler avec Rachel Lévy. Mais est-ce que Myriam,
Vous pouvez nous dire en quelques mots, parce qu'on parle souvent de congeler ses ovocytes, mais ce n'est pas rien non plus de congeler ses ovocytes. Voilà, c'est pas comme donner son sperme.
Voilà, en fait, techniquement, c'est la même chose. En fait, de congeler son sperme ou de congeler ses ovocytes, c'est congeler ses gamètes féminins et masculins. Sauf qu'en fait, pour congeler ses ovocytes, il y a une petite intervention chirurgicale après une dizaine de jours de stimulation hormonale, puisque l'idée est d'aider avec un traitement notre corps à ne pas produire un ovule comme il en produit naturellement, mais à en produire le plus possible, en l'occurrence entre 10 et 20, c'est ce que recommandent les médecins. Et voilà, et pour ça, il faut, pendant la première partie du cycle menstruel, faire des piqûres quotidiennes d'hormones pour stimuler ces ovaires et qu'ils produisent le maximum d'ovules.
Et ça fait mal ?
Alors non, ça fait pas mal. Enfin, ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal.
Franchelle Lévy, à ma gauche, fait une drôle de tête. Hein. Ça doit faire mal de temps en temps. Myriam, ça vous a pas fait mal alors ?
Voilà, moi, ça m'a pas fait mal du tout, quasiment. J'ai juste les deux derniers jours qui ont été un peu plus compliqués parce qu'en fait, on commence à sentir l'effet des hormones et puis que ça travaille, etc. Mais franchement, les femmes sont habituées à souffrir pendant leurs règles, pendant qu'elles sont enceintes, etc. Je pense que franchement, c'est pas du tout insupportable. Mais c'est pas rien. Voilà, c'est pas du tout infaisable parce que parfois, les femmes s'en font une montagne. Je pense que quand on est motivée, ça passe assez facilement. Voilà.
Et vous, Myriam, vous l'avez fait, c'est pas pour faire un enfant toute seule, comme on dit depuis le début de cette émission-là. Vous, c'est pas ça que vous voulez.
Voilà, et souvent la confusion est faite. En fait, c'est que j'avais pas trouvé le bon partenaire à 35 ans, je l'ai toujours pas à 37 ans, et que faire ça me laisse une chance supplémentaire d'avoir un enfant sur le tard. Si je rencontre par exemple quelqu'un à 39 ou 40 ans, ce qui est de plus en plus le cas quand même, avec la vie des femmes qui travaillent, qui font des études plus longues, etc., ça laisse la possibilité d'avoir un enfant et qu'une fécondation in vitro fonctionne. Enfin, ça, je laisserai Rachel Lévy donner son avis sur la question, mais je crois que les chiffres sont bien meilleurs quand on fait une FIV avec des ovules plus jeunes.
Mais est-ce que vous pourriez attendre jusqu'à quel âge pour utiliser ces ovocytes que vous avez congelés ?
Alors, en Espagne, je peux les utiliser jusqu'à mes 49 ans. Ah. Est-ce que je déciderai d'avoir un enfant à 48 ou 49 ans ? Je n'en suis pas sûre. Je pense que ce sera plus jeune pour moi. Enfin, c'est compliqué, en fait, de se projeter dans ces questions-là.
Je comprends. Voilà. Je vais me tourner vers le professeur Rachel Lévy, chef du service de biologie et de la reproduction à l'hôpital Tenon à PHP à Paris. La loi, donc, prévoit cette congélation des ovocytes. Jusqu'à quel âge Myriam Levin pourrait utiliser, selon vous, les ovocytes pour faire un enfant ?
C'est en discussion. Mmh. Alors, ce qui est en discussion, c'est aussi l'âge d'accès à cette vitrification ovocytaire non médicale. Pas trop tôt, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un projet. Pas trop tard, parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment encore d'ovocytes à conserver.
Je crois que la ministre a parlé de 32 ans, la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Est-ce que ce n'est pas un peu tard déjà, 32 ans, pour congeler ces ovocytes ?
Ça dépend. C'est vrai que, on a parlé tout à l'heure des deux critères qui sont le dosage biologique de l'hormone antimullérienne et le compte folliculaire ventral. C'est vrai que parfois...
Là, vous parlez chinois, mais ce n'est pas très grave. On comprend ce que vous voulez dire.
À 32 ans, ces deux indicateurs sont déjà effondrés. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais rebondir sur l'idée d'un plan d'AMP. C'est une notion beaucoup plus large, qui est que les informations que les témoignages nous font remonter montrent bien qu'il y a besoin d'informer en France les jeunes filles, et très tôt, sur le fait que être mère, c'est pas quand je veux, mais c'est aussi quand je peux. Et ce « peut », c'est la physiologie, tout simplement. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait des cours à tous les niveaux, dans les lycées, dans les collèges, pour rappeler la physiologie en termes de reproduction des femmes.
Rappeler, leur dire que la fertilité
exactement.
Très tôt, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Oui. Mais ça ne veut pas pour autant dire, rassurez-moi, qu'il faut qu'elle tombe enceinte.
Non, pas du tout. Ah. Mais en fait, on vit dans une société où on voit des stars qui sont enceintes à des âges très avancés. Okay. Et pour certaines femmes, il y a une espèce d'identification en se disant, écoutez, si telle ou telle star peut le faire à 45 ou 50 ans, peut-être que je peux le faire aussi. Donc c'est juste un rappel de bon sens. Et c'est ce que les professionnels de la santé appellent de leur vœu, un vrai plan AMP.
Je vous repose la question sur Myriam Levin. Les ovocytes,
45
ans. 45
alors,
ans,
en
voilà.
En France, on discute, parce que là, en fait, c'est plus une question de complications de la grossesse qui peuvent survenir. Il y a des complications vasculaires et d'autres, et qui peuvent augmenter en cas d'âge avancé de la mère. Vous avez tout à fait raison, madame. C'est vrai que utiliser des ovocytes qui ont été prélevés avant
35 ans,
exactement, c'est mieux. Maintenant, il y a la grossesse en elle-même, même qui peut s'associer à des complications liées à l'âge.
Ça sera aussi l'objet d'une nouvelle émission. Merci beaucoup Myriam Levin de nous avoir fait partager votre expérience. Je rappelle le titre de votre livre « Et toi, tu t'y mets quand ?» aux éditions Flammarion. Merci aussi à Audrey, à Marie, à Imane et Olivia de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie et à vous, professeur Rachel Lévy, pour votre éclairage. Grâce à vous toutes, nous avons compris que faire un bébé en solo était une formidable aventure, mais aussi une entreprise à haut risque pour soi, pour l'enfant. Sentiment de solitude, isolement, risque de dépression, et pour que ça marche, il faut quelques conditions. D'abord, être très entouré, parents, frères et sœurs, amis, voisins, une vaste communauté d'entraide qui peut intervenir rapidement et à n'importe quel moment dans les moments critiques. Un bon job aussi pour s'épanouir dans sa vie professionnelle, ne pas s'enfermer dans ce statut de mère célibataire. Et puis une bonne santé, parce qu'à deux, élever un enfant, c'est sportif, alors tout seul. Et puis enfin, une bonne dose d'optimisme aussi, car l'amour, le couple, le mariage, la vie des contes de fées arrive parfois tard dans la vie, et j'en sais quelque chose.
Vous pouvez continuer à en discuter sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur le groupe de l'émission Partageons nos expériences de vie sur Facebook.
Europe 1.
Lundi, nous nous demanderons pourquoi prendre la parole en public suscite autant de stress, pourquoi le trac parfois nous paralyse. Alors si vous avez des palpitations, une boule au ventre, des tremblements dès que vous devez vous exprimer devant une salle, si vous avez définitivement renoncé à le faire, trop de trac, ou au contraire, si vous avez trouvé la parade à toute cette angoisse, appelez-nous au 3921 pour témoigner. Nous attendons vos appels. Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation en solo de cette émission. Merci à Boris Paczynski à la réalisation et merci à vous, Johanna.
J'étais ravie de passer cette heure à vos côtés et j'ai appris plein de choses.
Eh bien, merci. Je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de Karima Charny. Bonjour, Karima.
Bonjour, Eve. Bonjour
alors,
à tous.
Quel est votre programme cet après-midi?
Alors, cet après-midi, on va s'intéresser aux séries télé et également et surtout à leur musique. On a découvert plein d'artistes grâce aux séries. Alors, qui sont-ils? Réponse dans un instant. Petit aperçu, ça donne ça.
C'est une devinette?
Friends, les Rembrandts qui ont connu une deuxième vie, une deuxième carrière grâce à Friends. Donc voilà, on va retracer plusieurs périodes musicales grâce aux séries télé dans un instant dans Musique sur Europe 1.
Ok, bonne émission et moi Merci. Je vous dis à lundi.